Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Art-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en France en 1996, Saint-Louis de Jacques Le Goff est une vaste biographie historique de Louis IX, roi de France de 226 à 270 et canonisé en 1297. Loin de réduire son sujet au récit linéaire d'un règne, Le Goff examine une question centrale: comment approcher un souverain dont la vie fut très tôt recouverte par la sainteté, la mémoire dynastique et les récits édifiants. Le livre associe donc trois démarches: retracer la trajectoire politique et religieuse du roi, soumettre les sources médiévales à une lecture critique, puis étudier les images successives du roi, du saint et de l'homme. Cette architecture reflète les méthodes de la nouvelle histoire et de l'école des annales, attentive aux mentalités, aux représentations et aux conditions de production des textes. Louis IX devient aussi une voie d'accès à la France du XIIIe siècle, à ses institutions monarchiques, à ses ambitions croisées et à sa culture chrétienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une biographie organisée autour du problème roi, saint et homme. Le Goff construit son étude à partir d'une difficulté que les biographies ordinaires rencontrent rarement avec une telle intensité: Louis IX est à la fois un acteur politique bien documenté, un saint officiellement canonisé et une figure façonnée par des générations de récits. Ces trois dimensions ne se superposent pas simplement. Le roi gouverne un royaume puissant, rend justice, conduit des expéditions en Orient et négocie avec ses adversaires. Le saint devient pour sa part un modèle de pénitence, de charité et de souveraineté chrétienne. Enfin, l'homme demeure partiellement inaccessible, puisque les témoignages disponibles ont souvent été écrits pour louer, instruire ou légitimer. Le Goff ne prétend pas éliminer cette tension par une reconstruction définitive de la personnalité du souverain. Il montre plutôt que la sainteté n'est pas seulement un masque posé après coup sur une existence politique. Louis semble avoir voulu conformer sa conduite à des modèles chrétiens de gouvernement, ce qui rend sa vie et sa représentation étroitement liées. Cette approche évite de réduction prendre toute tradition hagiographique comme un fait brut, ou considérer toute piété comme une pure invention idéologique. La question de la vérité biographique devient ainsi une enquête sur les rapports entre comportement, mémoire et pouvoir. Deuxièmement, la critique des sources comme cœur de l'enquête historique, la partie consacrée aux sources constitue l'une des apports les plus distinctifs du livre. Le Goff examine les textes qui parlent de Louis IX non comme de simples réservoirs d'informations, mais comme des objets situés, produits par des auteurs ayant des attentes, des publics et des intérêts propres. Les récits hagiographiques, les chroniques royales, les témoignages ecclésiastiques et les souvenirs de Jean de Joinville ne donnent pas le même Louis. Chacun sélectionne des faits et les inscrit dans un langage politique, moral ou religieux. Un récit peut présenter le roi comme un imitateur du Christ, un autre comme un successeur exemplaire des dynasties françaises, tandis qu'un proche met davantage en avant des scènes vécues et des traits personnels. Cette pluralité ne condamne pas l'histoire à l'impuissance. Elle impose une méthode de comparaison, de contextualisation et de prudence. Le Goff demande ce que chaque source permet réellement d'affirmer et ce qu'elle cherche à faire croire ou à transmettre. Joinville occupe une place majeure, car son témoignage offre des détails concrets et une proximité singulière avec le roi, sans échapper pour autant aux exigences de la mémoire et de la composition littéraire. Le livre devient donc une réflexion pratique sur la façon dont un historien travaille quand les documents mêlent information, admiration et construction de modèles. Troisièmement, la monarchie capétienne entre devoir de gouvernement et idéal chrétien, Saint-Louis étudie Louis IX au point de rencontre entre raison de gouvernement et exigences religieuses. Le Goff insiste sur le fait que la piété du roi ne constitue pas un domaine privé séparé de son action publique. Dans la culture politique du XIIIe siècle, la couronne est conçue comme une charge reçue de Dieu et le souverain doit répondre moralement de la justice, de la paix et du salut de son peuple. Cette conception éclaire la place donnée à la justice royale, aux gestes de pénitence, aux fondations religieuses et aux croisades. Elle aide aussi à comprendre les contradictions du personnage. Un roi qui cherche à imiter le Christ doit néanmoins exercer la coercition, défendre les intérêts de sa dynastie et engager les ressources du royaume dans des entreprises militaires. Le Goff ne dissout pas ces tensions dans une célébration simple ni dans une dénonciation anachronique. Il les analyse comme des traits constitutifs de la souveraineté médiévale. La question n'est donc pas seulement de savoir si Louis fut vertueux, mais comment une norme de sainteté a pu devenir un principe d'action monarchique. Cette perspective replace le règne dans le développement de la puissance capétienne, tout en refusant de le décrire uniquement avec des catégories administratives ou nationales modernes. Quatrièmement, les croisades révèlent les limites et les ambitions du souverain, les expéditions de Louis IX en Égypte, en Terre Sainte puis en Tunisie, occupent une place essentielle dans le parcours étudié. Elles manifestent sa volonté de servir la chrétienté. mais elles exposent aussi les risques concrets d'une politique où convictions religieuses, prestige royal et stratégie internationale sont indissociables. La première croisade se solde notamment par la captivité du roi, événement qui aurait pu détruire son autorité. Pourtant, sa réputation de constance pénitente et de souverain responsable contribue à transformer l'échec militaire en élément durable de sa mémoire. Le Goff invite ainsi à ne pas mesurer les croisades uniquement à l'aune de conquêtes territoriales permanentes. Elles ont aussi une signification morale et symbolique dans la définition du roi chrétien. Cela ne revient pas à nier leur coût humain, financier et politique, ni à les soustraire à la critique historique. Le livre montre plutôt qu'il faut comprendre les raisons qui rendaient ces engagements intelligibles et impérieux pour Louis et pour une partie de son entourage. La seconde expédition, achevée par la mort du roi en 270, renforce encore la fusion entre destin personnel, idéal religieux et mémoire royale. Les croisades deviennent alors un observatoire précis des paradoxes qui structurent la figure de Saint Louis. En dernier lieu, le XIIIe siècle français observé à travers une vie royale, la portée du livre dépasse largement le portrait individuel. En suivant Louis IX, Le Goff recompose un ensemble de structures sociales, culturelles et politiques qui définissent la France du XIIIe siècle. Les relations familiales au sein de la dynastie, la place de Blanche de Castille, le rôle de la cour, les pratiques de justice. Les liens avec les ordres religieux et les usages de la mémoire contribuent tous à expliquer le règne. Cette amplitude correspond à la manière dont Le Goff conçoit la biographie. Une personne ne peut être isolée de l'univers mental et matériel qui rend ses choix possibles. Le roi n'est ni un simple produit de son milieu, ni un héros détaché des contraintes de son temps. Ses actions prennent sens dans des cadres de croyances, des institutions et des représentations du pouvoir. Le livre mobilise ainsi des thèmes caractéristiques de l'histoire des mentalités, tels que le rapport au corps, à la pénitence, à l'espace, au temps ou au geste. Cette démarche permet de voir comment la monarchie française se nourrit d'une culture chrétienne partagée, tout en produisant ses propres formes de prestige et d'autorité. Certains lecteurs pourront trouver cette abondance moins directe qu'un récit de règne classique. Elle constitue néanmoins la force principale de l'ouvrage. Une vie royale sert de prisme pour comprendre une société entière et les mécanismes qui ont construit sa mémoire. En conclusion, Saint Louis s'adresse en priorité aux lecteurs déjà motivés par le Moyen-Âge, l'histoire de France, les croisades et la méthode historique. Son ampleur et sa densité le rendent moins approprié comme première introduction à Louis IX qu'un ouvrage plus bref et plus narratif. En revanche, il offre un bénéfice intellectuel considérable à qui veut comprendre comment se fabrique une biographie lorsque les archives sont traversées par la dévotion, la propagande dynastique et les reconstructions postérieures. Le lecteur y apprend non seulement des éléments sur le règne, mais aussi à interroger la provenance, la fonction et les silences des témoignages. Cette exigence donne au livre une utilité durable pour les étudiants, chercheurs et amateurs avertis d'historiographie médiévale. Ce qui distingue Le Goff de nombreuses biographies de souverains est son refus de choisir entre récit de vie et études critiques de la mémoire. Il propose successivement une chronologie, une enquête sur les sources et une série d'analyses thématiques, de sorte que chaque partie met à l'épreuve les certitudes de la précédente. Là où une biographie traditionnelle cherche surtout à stabiliser un portrait, celle-ci montre pourquoi le portrait reste nécessairement partiel et mouvant. Elle se distingue également par son attention aux structures mentales du XIIIe siècle, qui évite de juger le roi selon des oppositions modernes trop simples entre foi et politique. Malgré des critiques portant sur certaines généralisations et sur le poids de son appareil analytique, Saint-Louis demeure une œuvre de référence, une étude ambitieuse du pouvoir capétien, de la sainteté royale et des limites même de la connaissance historique. Si vous souhaitez soutenir Jacques Le Goff, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.